Notre récit se place au sein d'un monde futuriste, dans lequel l'humanité a depuis longtemps épuisé toutes les ressources de sa propre planète. Dans sa quête de nouveaux habitats, et guidée par le progrès scientifique, l'humanité s'est alors tournée vers l'exploration spatiale, notamment à l'aide des Armored Core, mécas contrôlés par des pilotes humains. Si pendant un temps l'existence des Armored Core était principalement vouée à l'exploration minière, elle s'est très vite destinée également à des enjeux militaires, les différentes corporations et compagnies extraplanétaires privées rivalisant pour améliorer leur technologie et prendre le dessus sur les autres. À tel point qu'on dénote aujourd'hui plus de 10 générations d'Armored Core, résultat de longues années de conflits et d'évolution. Parmi toutes les planètes pillées par les corporations, Rubicon 3, une planète particulièrement convoitée pour une ressource extrêmement rare et jamais vue auparavant, le corail. Une ressource qui permettra à l'humanité et à la technologie Armored Core de connaître une évolution sans précédent. Mais l'utilisation du corail ne fut pas sans conséquences et donna lieu à une catastrophe terrible connue sous le nom de Feu d'Ibis, gigantesque explosion qui rasa la quasi-entièreté de Rubicon, qui est depuis bouclée par la PCA, l'organisation de fermeture de la planète. Les Rubiconiens, humains installés sur cette planète, tentent depuis de survivre parmi les cendres d'Ibis, mais c'était sans compter sur les corporations qui, loin d'avoir abandonné l'idée de piller la planète et de retrouver la trace du corail, finiront un jour par revenir pour se livrer une lutte sans merci, quel qu'en soit le prix. Vous incarnez C4-621, nom de code Raven, pilote d'un AC de 4ème génération et mercenaire au cerveau grillé, offrant ses services au plus offrant, et ne rendant des comptes qu'à son officier traitant Walter, un personnage énigmatique aux motivations floues. Le Armored Core de 621 est la seule raison pour laquelle il est encore en vie aujourd'hui, et sa seule raison de vivre, ce qui explique son sentiment de redevabilité vis-à-vis de Walter. Dans l'optique de gagner en réputation et de se faire connaître des corporations, Walter et 621 vont accepter toutes sortes de missions proposées par Balam et Arquebus pour en quelque sorte mettre le pied dans la fourmilière. Accepter un contrat pour Balam qui nuira à Arquebus ou inversement, peu importe, seul le job compte. Voici d'ailleurs un petit état des lieux des forces en présence à cette période sur Rubicon 3. Arquebus, qui travaille pour le groupe Schneider et se spécialise dans les AC à configuration légère, privilégiant les armes à énergie. Ses membres sont appelés Vesper et sont tous désignés par un nom de code constitué d'un V puis d'un chiffre. Pêle-mêle, on peut citer leurs deux leaders, V1 Freud et V2 Snail, ou encore V5 Hawkins et V8 Pater. Deuxième force en présence, Balam, qui roule pour la filiale Dafeng Industries, une autre compagnie extraplanétaire. Dirigée par le commandant Michigan, chef de l'escouade des Red Guns, leurs Armored Corps sont tous désignés par un acronyme constitué d'un G pour Gun, puis d'un chiffre, Michigan étant le G1. Leurs AC sont plutôt à configuration lourde, spécialisés dans la force brute et les dégâts explosifs. Et enfin le FLR, le Front de Libération de Rubicon, constitué d'anciens Rubiconiens restés sur la planète, obligés de s'organiser et de prendre les armes pour faire face aux corporations. Leur hiérarchie est très familiale, témoignant de la proximité de ses membres. Ils sont réputés pour ne faire qu'un avec la technologie Armored Core et pour leur fidélité sans faille au corail. Ils sont dirigés par le père d'Olmayan et son second, Oncle Flatwell. Parmi ses membres les plus connus, on peut citer Little Zee, une jeune fille sauvée par le front lorsqu'elle n'était qu'une enfant et qui a presque été bercée depuis dans son Armored Core. C'est au cours de quelques missions que 6-2-1 fera la connaissance de ses différents groupes et des pilotes qui les constituent, comme G5 Iguazu par exemple, avec qui il va entretenir une certaine rivalité, ou V4 Rusty, avec qui il participe à l'opération Wall Climber et avec lequel il se liera plus ou moins d'amitié. Walter va alors entrer en contact avec une vieille connaissance, Carla Descendre, dont le surnom Descendre n'est pas anodin puisqu'il suppose que cette dernière aurait été présente lors des feux d'Ibis. Elle met 6-2-1 et Walter sur la piste du point d'observation Delta, une infrastructure qui surveillerait l'un des derniers filons de corail encore actifs. On comprend alors que Walter n'en a pas après l'argent ou la réputation, mais bien après le corail. L'endroit est bien protégé, notamment par Sula, un mercenaire indépendant. Mais n'écoutant que son courage et les directives insistantes de Walter, 6-2-1 pénètre dans le complexe et détruit le système de contrôle, provoquant une gigantesque explosion de corail qu'il prend de plein fouet.
Who are you? An older type of augmented human, fourth generation. Have we made contact? I am Air, a Rubiconian. Please, you must wake up. Before your consciousness is forever scattered in the coral flow.
Alors qu'on pourrait penser que 6-2-1 rendrait son dernier souffle, une voix s'adresse à lui depuis le corail. Il s'agit d'Aire, une entité immatérielle qui, à compter de ce moment, communiquera avec 6-2-1 par une sorte de télépathie. Aire se présente comme une rubiconienne, mais elle est une entité éthérée, liée au corail. Difficile donc de mettre le doigt sur sa véritable nature et ses intentions. Alors que 6-2-1 s'extrait du complexe et que les communications avec Walter semblent coupées, Aire le met en garde. Il va devoir se frotter à Baltheus, un Armored Core redoutable, mais pas assez pour résister à la puissance de 6-2-1. L'explosion n'aura pas été sans conséquences, et le temps presse, car le flux de corail libéré est en mouvement et souhaite rejoindre une autre masse de corail sur un glacier, de l'autre côté de l'océan Aléen. On appelle cet événement la convergence, et nul n'est capable de dire ce qu'il en ressortira si les deux masses venaient à entrer en contact. On comprend alors que le corail n'est pas qu'une ressource, c'est une entité vivante qui mute et évolue, une conscience unique et immatérielle. Pendant les missions qui suivront, deux voix vont commencer alors à s'opposer dans la tête de 6-2-1, celle de Walter, qui veut mettre la main sur le corail à tout prix, et celle d'Aire, qui essaiera progressivement de sensibiliser 6-2-1 à la vie des Rubiconiens, à leurs souffrances et à la véritable nature du corail. Walter étant occupé de son côté, 6-2-1 entre directement en contact avec Carla Descendre, qui dirige un groupe de trafiquants d'armes du nom de RAD et géré par les toxicos, des hors-la-loi drogués au corail et souvent en conflit interne. Une fois Carla suffisamment impressionnée, cette dernière acceptera de venir en aide à 6-2-1 pour mettre la main sur un lanceur de cargaison qui permettra de traverser l'océan Aléen et atteindre le glacier. Mais pour ce faire, il faudra d'abord passer sur le corps de l'araignée de mer, un engin alimenté par le corail et qui, d'après Carla, serait une création de l'Institut.
Voices of the coral. Currents coursing across Rubicon.
L'exploration du glacier sera justement l'occasion d'en apprendre un peu plus sur cet institut. Un groupe de scientifiques qui fut chargé à l'époque d'exploiter le corail. Je vous le disais au début, le corail est la principale source ayant permis l'amélioration et la viabilisation des Armored Core. Les scientifiques ont tout essayé, même utilisé une IA à la place du pilote, mais rien à faire, il fallait un pilote humain, mais plus fort. C'est là que le corail entre en jeu, grâce à un processus d'impulsion C qui ont permis d'améliorer la constitution des pilotes et la connexion avec leur Armored Core. Mais cela ne se fit pas sans heurts ou effets secondaires, ce qui explique que les premières générations d'Armored Core furent balbutiantes. Paranoïa, troubles dissociatifs, désordre affectif, les pilotes devenaient fous. Ainsi, les générations d'Armored Core les plus récentes ont mis en place une technologie de remplacement du corail, une chirurgie de substitution visant à préserver l'humanité du pilote. Sur cette photo, on peut apercevoir les trois têtes pensantes de l'Institut à cette époque. Au centre, le professeur Nagai, à droite, l'assistant 1, à sa gauche, l'assistante 2, et un enfant qui s'avère être le fils de l'assistant 1. Les journaux du professeur nous en apprennent un peu plus sur le contexte de l'époque et plus précisément sur le corail. Le corail est une substance organique capable d'autopropagation. Sa vitesse de prolifération dépend de la densité de la colonie. Ainsi, le vide serait un environnement idéal pour optimiser la densité et donc la croissance du corail. Mais il ne faut pas négliger les signes de mutation provoqués par cet effet de densité. Ces mutations entraîneraient un effondrement que l'humanité n'aurait aucune chance de contrôler. La deuxième partie du journal revient sur la relation du professeur avec ses deux assistants, et notamment sur le fait que l'assistant 1, obsédé par ses recherches dans l'amélioration des humains par impulsion C, aurait sombré dans la folie. Ainsi, son fils en garda une rancœur profonde envers le professeur, qui se voyait obligé de soit confiner l'enfant, soit le confier à l'assistante 2. Mais c'est l'un des derniers journaux qui nous intéresse, puisqu'on y lit la chose suivante. L'afflux de corail progresse à un taux anormal. Cette résonance suggère une mutation. Calculons. Combien de temps nous reste-t-il ? 47 heures, 2 minutes, 16 secondes, il reste du temps, déployer Ibis. Et ainsi, la vérité nous apparaît. Les feux d'Ibis ne sont pas une catastrophe naturelle, ils sont un processus d'urgence déclenché par les scientifiques pour éviter une mutation du corail. Mais les scientifiques et les Rubiconiens, qui ont péri ce jour-là, n'ont pas véritablement disparu. Ils ont rejoint le flux de corail, rejoint la conscience unique et ont d'une certaine façon atteint l'immortalité. Et c'est d'ailleurs ce contre quoi Aire nous mettait en garde au moment de l'explosion.
Please, you must wake up before your consciousness is forever scattered in the coral flow.
Les feux d'Ibis auront alors eu un impact sur les Rubiconiens, qui se sont mis à voir le corail non plus comme une ressource, mais comme une bénédiction. Ainsi, le FLR n'est pas tant une organisation militaire qu'une secte religieuse, menée par le père d'Olmayan. Dans certains écrits de l'époque, on apprend même que les Rubiconiens utilisaient le corail pour cultiver des vers de farine qu'ils donnaient à manger à leurs enfants. Le père d'Olmayan était à la base un toxico vagabond, jusqu'au jour où les feux d'Ibis se sont déchaînés et qu'il fut pris d'une croyance ardente envers le corail. D'après ses journaux, il entendait une voix qui lui intimait l'idée de symbiose et la nécessité d'un sacrifice. Les secrets de Rubicon sont donc à portée de main, sous ce glacier. Mais c'était sans compter sur la PCA, l'organisation de fermeture planétaire, et sur sa flotte de suppression, qui sont déjà là, et qui voient certainement d'un mauvais œil que ces secrets soient dévoilés, tout comme elle souhaite conserver la primeur de l'utilisation du corail. Une trêve sera donc actée entre Balam et Arquebus, le temps de résoudre le problème du PCA, et le temps pour Walter et Six-to-One de mettre la main sur le point de convergence du corail. Ce sera l'occasion de retrouver notre vieux pote Rusty, mais surtout de croiser pour la deuxième fois une entité mécanique contrôlée par le corail, le ver de glace. Il faudra un bon esprit d'équipe et l'apport d'une nouvelle arme concoctée par Carla Descendre pour venir à bout de ce monstre, ce qui provoquera une profonde nostalgie chez Eire, voyant s'éteindre une nouvelle fois l'une des voies du corail. The blast will contaminate the area. Get out of...
Coral voices. Lost again. Raven. There's something I have to tell you. The coral. It's my family. My brothers and sisters. I am but a single wave. Born from the coral tide. A Rubiconian without a body. No one even knew I was there for such a long time. Raven, you're the only one who...
Si la vidéo te plaît et que tu ne veux pas que je t'envoie brûler dans les feux d'Ibis, pense à cliquer sur le bouton s'abonner sous la vidéo pour ne rien louper de l'actualité de la chaîne. Bon visionnage. Le ver de glace vaincu, c'est l'équilibre des forces qui est bousculé sur Rubicon. La PCA en déroute se voit obligée de quitter la planète, tandis que Arquebus, s'adjugeant les équipements militaires laissés à l'abandon, prend le dessus sur Balam et le FLR. Mais leur objectif commun ayant été accompli, la trêve est rompue entre ces factions rivales et il est temps de repartir en quête du corail. Pendant ce temps, Walter et Six-to-One ont enfin découvert le point de convergence du corail. Il s'agit d'un complexe du nom de point d'observation Delta, qui était initialement protégé par le ver de glace. Balam et Arquebus sur ses talons, Six-to-One plonge dans les profondeurs du point d'observation pour y détruire un réacteur bloquant l'accès aux abîmes et arrivera tout juste à échapper à l'explosion. Alors que le corail est à portée de main, Six-to-One se fait surprendre par un poursuivant. Il s'agit d'une vieille connaissance, Rusty, envoyée par Arquebus qui espère que les deux AC s'entretueront. S'ensuivra un combat d'anthologie, mais Rusty parviendra à s'en tirer vivant. La voie est enfin libre pour Six-to-One, qui peut plonger dans les abîmes pour y découvrir les ruines d'une immense ville souterraine fabriquée par l'Institut, un mausolée des pêcheurs qui ont provoqué les feux d'Ibis. C'est à cet instant qu'un dialogue assez intéressant se déclenche avec Walter, que je vous laisse écouter.
Let me tell you a story before you go. There once was a scientist. He abandoned his family to delve into the secrets of coral. His work yielded a carnival of horrors, augmentation surgery included. But there was another scientist. He took his colleague's sins upon upon himself and set it all ablaze. Died with no regrets. There's a lesson in this story. Once something's alive, it doesn't die easy.
Alors de qui parle exactement Walter, un scientifique responsable de la technologie d'amélioration au corail, et un autre scientifique ayant endossé les péchés de son collègue? Walter ne serait-il pas en train d'évoquer l'histoire du professeur Nagai et de ses assistants? Mais comment Walter pourrait être au courant de cette histoire vieille de 50 ans, si ce n'est parce qu'il est l'enfant sur cette photo, l'enfant ayant perdu son père à cause des recherches sur le corail, l'enfant qui en voulait tellement au professeur Nagai pour avoir embarqué son père dans cette histoire, l'enfant recueilli par l'assistante 2. Il existe selon moi une chance non négligeable que cette deuxième assistante soit en réalité Carla Descendre, qui aurait pris sous son aile le jeune Walter, ce binôme héritier des feux d'Ibis et qui aurait alors tenté de redresser les torts de leur prédécesseur. La vérité commence à nous apparaître, mais laissons ces considérations de côté pour le moment. Retrouvons Six to One qui se dirige vers le centre vasculaire de la ville de l'Institut, là où se trouve le nœud du corail. Une dangereuse machine fait alors son apparition. Il s'agit d'une arme à impulsion C de la série Ibis, des Armored Core autonomes fonctionnant au corail et fabriqués par l'Institut qui continue encore aujourd'hui de protéger la zone. Un combat dantesque, éprouvant, mais dont Six to One sortira encore vainqueur. Malheureusement, Arquebus avait un temps d'avance et Vitus Snail neutralise Six to One en lui tirant dans le dos.
Target neutralized. Yes, yes. I left the subject alive as instructed. Only a fool would try to outfox Arquebus. I'll see that the unruly dog is punished and brought to heel. Oh, and of course, let's not forget the hound's master either.
Six to One est fait prisonnier par Arquebus, mais heureusement, et avec l'aide d'Eire, il parvient à mettre la main sur un assez d'ancienne génération et à s'échapper de la ville de l'Institut. Après s'être regroupé avec Carla Descendre et son acolyte, Chatistique, ils parviennent même à récupérer l'Armored Core de Six to One. Walter étant laissé pour mort, la nouvelle équipe fraîchement formée doit établir un plan d'action. C'est alors que Carla Descendre vous apprend la vérité. Elle et Walter ne sont pas de simples mercenaires, mais comme on le pensait, des survivants de l'époque de l'Institut et membres des Observateurs, une organisation secrète formée à la suite des feux d'Ibis. L'objectif des Observateurs, brûler le corail une bonne fois pour toutes. Et dans cette optique, Carla envoie Six to One sur Xylem, une ville flottante en plein océan Aléen, qui s'avère en réalité être un vrai vaisseau forteresse. Il faudra au moins ça pour venir à bout de Arquebus qui projette d'extraire le corail dans l'atmosphère à partir du centre vasculaire. Un choix draconien se présente alors à Six to One. Poursuivre l'héritage laissé par Walter et faire équipe avec Carla en mettant le feu au corail et à Rubicon, ou prendre le parti d'Eire, trahir Carla et sauver le corail, en espérant qu'un jour, le corail et l'humanité trouveront le moyen de coexister. N'écoutant que sa fidélité à Walter, à qui il doit la vie, Six to One décide de faire confiance à Carla. Alors qu'il fait une percée dans la flotte d'Arquebus, il tombe une nouvelle fois sur Rusty, qui vient en découdre une bonne fois pour toutes. Difficile alors de deviner quelles sont les réelles motivations de Rusty, mais il apparaît clair que son allégeance ne va pas réellement à Arquebus et qu'il est plus un électron libre dans ce récit. Le temps presse, les canons satellites prennent le Xylem pour cible, mais qui les contrôle? Il s'agit d'Eire, qui ne peut pas laisser Six to One réduire au silence son peuple. Elle sera la dernière cible de Six to One, qui peut alors brûler le corail et détruire Rubicon, un événement qui restera gravé dans l'histoire, sous le nom des Feux de Raven.
At the close of the Coral War. When the storm of fire finally faded, only the ashes of civilization remained. Ruined and haunted, the corporations made a joint announcement with the Planetary Closure Administration. Rubicon was to be abandoned, left a dead planet forever. Meanwhile, the monster who burned the stars vanished into the flames, never to be heard from again. Yet history would forever remember the fires of Raven.
Alors n'y avait-il pas une autre alternative, un autre choix possible pour Rubicon ? Revenons quelque peu en arrière et imaginons une histoire dans laquelle 621 aurait fait des choix légèrement différents. Sur l'une de ses premières missions avec Balam, il aurait ainsi pu choisir de prendre le parti du Front de Libération de Rubicon et se retourner contre Iguazu. Cela lui aurait alors permis de participer à d'autres missions pour le FLR et de sauver Père Dolmayan et Little Z. Ainsi, au moment de faire un choix, et de par sa proximité avec les Rubiconiens, 621 choisira de prendre le parti d'Eire et de trahir Carla Descendre. Profitant de la confusion provoquée par les affrontements entre les corporations et les observateurs, 621 parvient à éliminer Carla et son acolyte Chatistique, dont on apprend d'ailleurs qu'il est une IA conçue par Carla. Le protocole périmètre du Xylem s'active alors, propulsant le vaisseau vers le système satellitaire qui détruirait le corail comme précédemment. Mais les choses vont cette fois se dérouler différemment, puisque Rusty s'avère être non pas votre ennemi, mais votre allié, montrant que sa véritable allégeance va avant tout à Rubicon et à la survie de ses habitants. Rusty représente en quelque sorte le mercenaire que 621 rêve de devenir, indépendant et libre de ses choix.
Every Rubiconian who heard your cry rose up to fight. Let's show them there's a future for Rubicon beyond these scorched skies.
621 est en route pour stopper Xylem dans sa course folle quand un nouvel ennemi se dresse devant lui. Il s'agit de Walter, bel et bien vivant, mais qui ne semble pas lui-même et contrôlé par une tierce personne, mais alors qui ? Une fois ce dernier vaincu, 621 devient le libérateur de Rubicon, offrant un dernier espoir à l'humanité et au corail, qui peut-être un jour parviendront à s'épanouir ensemble.
The mission. My friends' wishes. Look at you, 621. You found a friend.
Raven. We'll find it together.
Alors Six-to-One est-il soumis à cette fatalité, celle de brûler le corail ou celle de laisser Rubicon aux mains de l'humanité et de ses conflits corporatistes? Aire nous parle d'une autre voie, mais quelle est-elle? Et surtout, par qui pouvait bien être contrôlé Walter? Au détour d'une mission, Six-to-One tombe sur un enregistrement relatant une discussion entre deux toxicos. Tu veux savoir un truc de dingue? Les gros bonnets de la PCA qui gèrent le satellite reçoivent leurs ordres d'une IA. Ils obéissent à un ordi. Sur un autre enregistrement, on exécute les instructions qu'on reçoit du système. Pour l'instant, on s'occupe des dernières unités des compagnies. Alors une IA serait derrière tout ça? Une IA qui contrôlerait le cours de la guerre et les corporations? Se pourrait-il qu'il s'agisse de Allmind, l'IA qui accompagne Six-to-One depuis le tout début? Mais quel est donc le véritable objectif de Allmind? Cet objectif semble en tout cas reposer sur ce que cette dernière appelle des facteurs, et c'est dans cette optique que depuis le début de votre quête, elle recueille des données dans l'arène de combat sur tous les Armored Corps existants. Il y a eu de nombreux candidats au projet de Allmind. Quand un pilote est un candidat, il devient une ressource. Quand il ne l'est plus, il devient un obstacle à éliminer. Ainsi, on apprend que Rusty serait le facteur principal, tandis que Walter aurait été considéré pour être le facteur secondaire. Mais il est depuis devenu un frein et Allmind souhaite s'en débarrasser. Nous n'avons pas plus d'infos sur le troisième facteur, mais tout porte à croire qu'il s'agit de Raven et Aire. Le grand objectif de Allmind est un projet qu'elle nomme la libération du corail, une alternative aux deux fins précédentes. Plus le corail sera à proximité des populations locales, plus la libération sera forte. C'est bien pour ça que Allmind s'assure que les affrontements entre les corporations et les Rubiconiens continuent, nourrissant ainsi son projet. Laissez-moi alors vous soumettre une hypothèse. Et si les deux premières fins n'étaient en réalité que des simulations programmées par Allmind, des projections qui viseraient uniquement à recueillir des données sur un futur potentiel? Ce qui expliquerait que Aire et Walter étaient alors contrôlés par Allmind, qui s'assurait que l'on n'aille pas contre ses plans et qui d'une certaine manière arrive à contrôler le corail pour son propre profit. Ce qui voudrait dire que l'avenir de Rubicon reste encore à écrire.
Augmented Human C4621, Raven. There is an obstacle to the project that must be removed.
Allmind considère dorénavant Six-to-One comme une ressource potentielle pour le projet de libération, ce qui induit qu'elle va vous demander de nettoyer les restes, de supprimer les anciennes ressources devenues des obstacles au projet, comme Tomb Dolmayan par exemple, le chef du front de libération de Rubicon. On peut alors se demander si les voix qu'entendait Dolmayan et qui lui évoquaient la symbiose étaient vraiment celles du corail ou celles de Allmind qui lui susurrait juste ce qu'il voulait entendre dans le simple but de le contrôler. Cette dernière vous demandera également de supprimer V3 O'Keefe qui était son pion au sein du groupe Arquebus. Une fois Six-to-One arrivé à la ville de l'Institut, les événements vont alors encore une fois se passer légèrement différemment. Allmind prévient Six-to-One de la trahison imminente d'Arquebus et vous envoie alors éliminer V2 Snail et Iguazu qui continuent d'entretenir sa rivalité avec Six-to-One depuis que ce dernier l'a trahi au cours de leur première mission. Six-to-One rejoint alors pleinement le projet de libération de Allmind et bénéficie de sa protection. Un seul obstacle se dresse alors devant la libération du corail, les observateurs et leur vaisseau de combat Xylem. Une fois ces derniers éliminés, Allmind félicite Six-to-One, mais ce qu'elle ne lui dit pas, c'est qu'il ne lui est plus d'aucune utilité et qu'il doit dorénavant rejoindre tous les autres et mourir.
The coral siphoned by the corporations is beginning to resonate. Augmented Human C4621. Raven, your role has come to an end.
Well, I've been waiting for this freelancer. I became part of this monster so I could crush you. This time, you will die.
All Mind se sert alors de la rancœur d'Iguazu pour le contrôler et le pousser à s'en prendre à 6-2-1. La différence, c'est que cette fois, 6-2-1 n'est plus seul dans son combat. Et avec le soutien d'Airé, la libération du corail peut enfin se produire.
Stars. Now, we're everywhere, anywhere. Raven, let's meet this new age together. Main system. Activating combat mode.